Madrid, Москва.
Je croise aux forces de l'esprit
pour aller amuser la galerie.
There is no alternative.
Désastre. L'alignement des astres.
Atatasque. En façon. Es Burgatums.
Time will tell.
Russe Europe Express.
Jacques Sapir.
Clément Olivier. Renouer avec l'esprit de conquête économique. La formule se veut forte, le programme est vaste. Faciliter la création, la transmission d'entreprises et le rebond en cas d'échec. Débloquer la croissance des PME. Inciter les épargnants à financer l'économie réelle. Et enfin rendre l'entreprise plus juste et responsable au niveau social comme environnemental. Voilà les quatre objectifs que se fixe la loi Pacte portée par Bruno Le Maire. Et au passage, privatiser Aéroports de Paris et la Française des Jeux. Mesure ajouté en cours de route à ce texte que les mauvaises langues qualifient de fourre-tout. Un PACTE comme plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, dont le ministre de l'économie veut faire le fer de lance de son séjour à Bercy. Alors, finalement, pourquoi livrer au privé des entreprises publiques prospères? Les PME françaises ont-elles vraiment besoin de grandir à la façon de leurs homologues allemandes? Et puis, faut-il attribuer un rôle social et écologique aux entreprises? On en parle dans ce nouveau numéro de Russe Europe Express. Bonjour Jacques Sapir.
Bonjour Clément.
En face de vous dans ce studio, Éric Vérec, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef d'entreprise, ancien membre du MEDEF et ancien président de l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres. Et vous avez signé en septembre dernier une tribune, disons, assez sévère envers cette loi Pacte. Et puis avec nous, depuis Angers, vous enseignez, bonjour David Cailin.
Bonjour.
Membre des économistes atterrés, vous êtes maître de conférence à l'université donc d'Angers. Et vous avez lancé avec l'essayiste Coralie Delhomme une pétition contre cette privatisation d'ADP, pétition qui vient de passer le cap des 100 000 et même 110 000 signatures au moment où nous enregistrons cette émission. Alors Jacques Sapir, dans votre édito, c'est justement sur ce point précis que vous voulez revenir, c'est le plus controversé de cette loi. Et cette question, est-ce que selon l'adage, à force de tout privatiser, on ne risque pas de se retrouver privé de tout?
Ah, je vous vois venir. Bah, et oui, effectivement, cette privatisation nous pose toute une série de questions. Parce que on voit bien que le gouvernement entend aujourd'hui relancer un mouvement de privatisation. Et il le présente comme une des conséquences de la loi Pacte. Mais dans les trois entreprises qui sont aujourd'hui concernées, Aéroports de Paris, la Française des Jeux et Engie, anciennement Gaz de France, les situations sont assez diverses. D'autre part, le problème est que toutes ces entreprises dégagent d'importants bénéfices, qui vont, naturellement, dans les caisses de l'État. Alors, on est en droit de se demander à quoi joue le gouvernement. Est-ce qu'il voudrait donc, maintenant, privatiser les profits après avoir socialisé les pertes?
Alors, quelques précisions d'abord sur la participation de l'État dans ces entreprises, et évidemment les bénéfices qu'il en tire, Jacques Sapir.
Oui, l'État détient des participations qui sont assez différentes, suivant les entreprises. Ainsi, l'État détient un peu plus de 50% du capital d'ADP et pratiquement 60% de ses droits de vote. Il est aussi propriétaire à hauteur de 72% de la Française des Jeux. Là, on voit bien, c'est une forme de propriété très importante. Enfin, pour Engie, il n'a plus aujourd'hui qu'environ un quart du capital et un petit peu plus de 28% des droits de vote. Mais avec une astuce juridique, il va pouvoir disposer en réalité de 34% des droits de vote. On le voit, la situation est donc différente suivant ces entreprises. Alors, il faut savoir que, comme tout actionnaire d'une entreprise et d'une entreprise qui fait des profits, justement, l'État perçoit des dividendes. Ainsi, Engie verse à l'État environ 500 millions d'euros à ce titre. Pour Aéroports de Paris, il s'agit d'un montant qui va de 120 à 130 millions. Et pour la Française des Jeux, un montant de l'ordre de 100 millions. Au total, ces trois entreprises rapportent donc entre 700 et 800 millions d'euros. Mais le pactole ne s'arrête pas là. En effet, il faut compter avec les impôts et notamment les taxes sur les jeux. Et oui, les jeux ne sont pas considérés comme une activité morale, qui apporte aujourd'hui plus de 3 milliards aux caisses de l'État. On le voit, ce sont donc des entreprises profitables, voire même très profitables, que l'État va céder.
Et alors, qu'est-ce compte l'État de cette opération?
Alors, le ministère des Finances attend grosso modo 15 milliards de recettes de ces privatisations. Sur ce montant, 5 milliards serviraient à réduire la dette. On dit bien réduire la dette et non pas le déficit, comme j'ai pu le lire assez souvent sur Twitter. Mmh. En effet, il faut savoir que, de par la loi, les recettes des privatisations ne sont pas considérées comme des recettes budgétaires. Et de ce fait, elles ne peuvent pas servir à équilibrer le budget ou à réduire le déficit budgétaire. Alors, il va donc rester 10 milliards. Cette somme serait placée et on attend un rendement d'environ 250 millions par an de ce placement. Cet argent servirait alors à alimenter un fonds pour l'innovation de rupture, comme c'est bien dit. Le prétexte de cette privatisation est donc l'investissement et l'innovation. Le raisonnement du ministère des Finances est cependant pour le moins curieux. Pourquoi privatiser ? Pour obtenir moins d'argent que ce que rapportaient ces entreprises à l'État. Rappelons que l'État touchait entre 700 et 800 millions d'euros de dividendes par an. Et après ces privatisations, il ne récupérerait ainsi que 250 millions. J'ai envie de dire, comme dans le film Drôle de drame, bizarrement étrange, étrangement bizarre, mon cher cousin. On comprend que c'est quand même une manière, pour le moins étrange, de procéder.
Bizarrement étrangement, cher cousin, mais vous nous dites, cher Jacques Sapir, que cela va même plus loin que ça.
Alors oui, évidemment, parce que dans le cas d'ADP, il faudra en plus prévoir une indemnisation des investisseurs minoritaires, qui devrait coûter grosso modo 1 milliard à l'État. Et puis par ailleurs, eh bien, ces privatisations, elles ne marcheront que si, évidemment, des investisseurs privés rachètent les parts. Et donc, ça veut dire que, pour le cas d'ADP, les partenaires de l'État au sein du capital d'ADP vont devoir dépenser entre 8 et 9 milliards. Et évidemment, leur premier souci sera de dégager le plus vite possible de quoi rembourser cette somme. Ainsi, on va voir que, d'une certaine manière, ADP sera mis sous une contrainte financière particulièrement lourde si cette privatisation se fait, et que ce sont les consommateurs qui, directement ou indirectement, paieront cette volonté de réaliser des profits supplémentaires. Alors, il faut rappeler que, d'une certaine manière, il y avait aussi des précédents. Par exemple, le cas de la privatisation des autoroutes, dont on a pas mal parlé il y a 2 ou 3 ans de cela. Et on a vu que l'État s'était privé de recettes importantes pour une opération qui a, surtout, il faut bien le dire, profiter des intérêts privés. Bref, on peut se demander si l'État, au lieu de tuer la poule aux œufs d'or, ne la vend pas.
Voilà, c'est pour toutes ces raisons que cette mesure, eh bien, elle est loin de faire l'unanimité, c'est le moins qu'on puisse dire.
Bien sûr. Alors, certains s'en sont émus, à gauche comme à droite. Rappelons ainsi que un groupe de députés et de sénateurs des Républicains, emmenés par Guillaume Pelletier, ont ainsi protesté. Il y a aussi des économistes qui protestent contre ce qu'ils appellent une spoliation des Français. Et on rappelle qu'une pétition a été lancée par des collègues, Coralie Delhomme et David Kella, et que cette pétition a déjà réuni plus de 110 000 signatures. Sur le fond, on constate que l'aéroport de Paris est en position de monopole. Et donc, ce monopole de public deviendrait privé. Signalons de plus que 86% des aéroports dans le monde sont publics. Et que, dans ce total, les 6 meilleurs aéroports, en termes de service, en termes de qualité de service, eh bien, sur ces 6 meilleurs aéroports, 5 sont publics. Le seul qui soit privatisé, c'est Londres, ce qui n'étonnera personne, compte tenu du tropisme anglais bien connu pour les privatisations. Donc, il est clair que cela pose un problème de respect de la Constitution. En effet, on est porté à croire que la privatisation d'ADP est contraire à l'alinéa 9 du préambule de la Constitution, qui est un héritage d'ailleurs de la Constitution de 1946. Ce préambule précisait en effet que tout bien, toute entreprise dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, ce qui est bien le cas évidemment dans le cas d'ADP, doit devenir la propriété de la collectivité. Alors plusieurs juristes ont fait remarquer que cette privatisation pouvait être considérée comme contraire à l'esprit de la Constitution.
Voilà, ne privatisez pas Charles de Gaulle, il ne l'aurait pas supporté. C'était les mots du sénateur LR Philippe Dominati en séance au Palais du Luxembourg. Puisque, oui, comme vous l'avez dit, Jacques Sapir, même la droite sénatoriale s'est largement opposée à ces privatisations, des gens qui appartiennent pourtant au parti dont est issu Bruno Le Maire, et une famille politique, vous l'avez dit également, qui avait privatisé les autoroutes sous Jacques Chirac. Mais la situation n'a rien à voir, nous explique un autre sénateur, les Républicains, c'est Roger Karoutchi. Écoutez.
En réalité, réalité, vous nous dites vous-même d'ailleurs que finalement, il faut quelque part éponger la dette. Et tout ça est extrêmement inquiétant. Autant je comprends une privatisation quand une entreprise publique ne marche pas et ne peut pas marcher tant qu'elle est tenue par les règles publiques. Je comprends. Autant, Aéroports de Paris ne s'était jusqu'ici jamais plaint d'avoir une incapacité à faire. Franchement, c'est une entreprise stratégique qui fonctionne, gardez-la.
Voilà, gardez-la, Roger Carucci, au Sénat le 5 février dernier. Le Sénat qui a ensuite donc rejeté ces privatisations, mais l'Assemblée vient, comme on pouvait s'y attendre, de les rétablir en commission. David Kaila, justement, c'est peut-être aussi un peu pour ça que vous avez lancé cette pétition contre une mesure que Jacques Sapir en fait nous décrivait comme irrationnelle.
Je ne sais pas si elle est irrationnelle, mais par contre, je pense qu'elle est contraire à l'intérêt général. Après, on peut trouver d'autres formes de rationalité pour faire ce genre d'opération. Concrètement, effectivement, avec Coralie Delhomme, on a lancé cette pétition parce que on avait un peu étudié le sujet en s'informant de l'actualité, et puis on s'est dit que c'était quand même une opération assez, évidemment très critiquable, surtout en plein mouvement des Gilets jaunes. Puisqu'on avait quand même un certain nombre de précédents. Alors évidemment, vous avez rappelé les autoroutes. Et là aussi, contrairement à ce que dit Carucci, les autoroutes ont été privatisées alors qu'elles marchaient très bien. Derrière cette privatisation, il y a simplement l'idée d'accorder au privé une rente de situation et qui a entraîné des hausses de tarifs. Et alors aussi, ce qui est assez intéressant aussi dans les autoroutes et ce qu'on va retrouver encore plus exacerbé dans le cas de l'aéroport de Paris, des aéroports de Paris, c'est le problème de la gestion publique-privée. Hein, parce que ce qui s'est passé, c'est que les sociétés d'autoroutes, par exemple, ont augmenté leurs tarifs, hein, mais ces augmentations n'ont pas été généralisées partout. C'est-à-dire que concrètement elles ont été vers les axes qui étaient déjà les plus utilisés, alors que le gouvernement avait imposé des formes d'augmentation moyenne. Et donc, on voit très bien le problème, hein, c'est le problème de la capture, c'est-à-dire que les contrats qu'on essaye de nouer avec les partenaires privés sont toujours incomplets, et ce qui veut dire que l'opérateur privé va chercher à détourner l'esprit du contrat, hein, parce qu'il y avait des augmentations qui étaient prévues par contrat, mais moyennes. Et donc, il a réussi à... en détournant le contrat, à augmenter les tarifs là où c'était évidemment le plus rentable. Et avec ADP, on va se retrouver sur une chose qui va être un peu similaire, parce que les aéroports, de toute façon, restent une frontière nationale extrêmement importante. Hein. C'est là que passent la plupart des étrangers. Donc, il y a bien sûr des mesures de sécurité qu'il faut...
J'allais vous poser la question, justement. C'est quelque chose que j'ai appris en lisant cette pétition que vous avez lancée. C'est que l'aéroport Charles de Gaulle, c'est en fait la première frontière française. Il faut peut-être nous en dire un peu plus là-dessus. Ouais.
Eh bien, c'est par là que passent la plupart des personnes. Alors, première frontière pour les passagers et pour les personnes. Évidemment, c'est pas la première frontière pour les biens. C'est aussi une frontière pour les biens. C'est-à-dire que concrètement, on a des douanes, on a donc des impératifs de sécurité. Et donc, aujourd'hui, c'est bien l'État qui gère à la fois l'aspect commercial de l'aéroport et aussi l'aspect sécuritaire. Donc, on n'a pas de conflits d'intérêts qui sont derrière. Mais lorsqu'on va privatiser, on va concéder l'aspect commercial aux prestataires privés, mais bien sûr l'État va continuer de contrôler les voyageurs. Le problème étant...
Oui, c'est ce que j'allais dire, pour autant on va pas privatiser les postes de douane, c'est pas la question.
Bien sûr que non, mais le problème c'est que ça veut dire qu'il va y avoir maintenant deux entités, l'État et le concessionnaire, qui vont avoir des stratégies différentes. Hein. L'un va chercher à maximiser le profit et donc la partie commerciale, l'autre à essayer d'organiser au mieux la sécurité. Et vous comprenez bien que dans un aéroport, on a une surface limitée, donc quelle surface on va donner à l'exploitation commerciale, quelle surface on va donner à la sécurité, tout cela va entraîner des conflits, conflits qui devront être anticipés par des contrats, contrats qui, comme je le disais, seront incomplets et donc vont entraîner, vous voyez, des formes de détournement. Concrètement, le problème, c'est que la gestion public-privé, hein, c'est bien de ça dont il s'agit, c'est une forme de partenariat public-privé qui va s'organiser, c'est parce que le public va rester dans l'aéroport, eh bien, ça va entraîner des complexités administratives, et en fait, je pense que ça va même coûter en gestion. Contrairement à ce que les gens disent, ces partenariats public-privé ne sont pas efficaces. Hein. La Cour des comptes a très régulièrement mis son nez dedans pour montrer que, eh bien, il y a toutes sortes de malversations qui peuvent se produire, parce que justement, l'exploitant a des intérêts différents de l'exploiter, si je peux dire, c'est-à-dire de l'État qui possède les infrastructures.
Alors, je vois Eric Vérec qui fait non de la tête depuis tout à l'heure. Je vous laisse répondre. C'est aussi pour ça qu'on vous a invité, pour avoir quelqu'un d'obédience plus libérale. Néanmoins, vous également, les modalités de ces privatisations vous gênent également, même si le principe même de privatisation,
oui,
vous êtes plutôt favorable.
Autant, je suis relativement neutre sur le sujet, parce qu'un aéroport, c'est pas comme une entreprise normale. Autant je trouve normal de privatiser un hôpital, autant un aéroport, je trouve que ça se discute. Mais je trouve que sur le fond, il y a en effet des observations, on y reviendra sans doute, sur la façon dont cette privatisation est prévue et se prépare. Autant je trouve les arguments de Kayla sur le partenariat public-privé un tout petit peu à côté de la plaque, je le dis amicalement, bien entendu, mais parce qu'il ne s'agit pas... Pour deux raisons. D'abord, parce que l'État, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est aujourd'hui la sécurité et notamment le contrôle aux frontières, la douane, elle est assurée par des services de la douane qui sont des services régaliens, comme on dit, en régie directe de l'État, puisque c'est le ministère des Finances qui a la main sur la douane. Et l'aéroport de Paris est comme une entreprise publique cotée en bourse. Donc c'est quand même deux autorités différentes, et c'est quand même très mal connaître l'État de faire croire qu'il n'y a qu'une seule parole à l'aéroport de Paris. D'ailleurs, il n'y aurait qu'une seule parole. Je pense que le président d'aéroport de Paris aurait les moyens d'accélérer un peu les contrôles de papiers, de passeports à Roissy, qui font la risée, quand même l'objet de la risée du monde entier, puisqu'il faut parfois plus d'une heure pour pouvoir être contrôlé à Roissy, plus d'une heure pour franchir la frontière, tant les effectifs de police sont mal organisés. Donc si aujourd'hui, il y a bien quelque chose qui ne marche pas...
Ou pas assez nombreux, nous disent les syndicats. Ouais.
Si, en tout cas, quelque chose ne marche pas à Roissy aujourd'hui, c'est la combinaison service aéroportuaire et service douanier. Donc, de ce point de vue-là, je trouve que l'argument porte pas vraiment, parce que, de toute façon, Aéroport de Paris, rappelons-le, est déjà privatisé à 50%. C'est déjà le Crédit Agricole et Vinci qui sont à 50% dans le capital d'Aéroport de Paris. Donc, on est dans un système qui est déjà très extériorisé par rapport à l'État. Ce n'est plus un EPIC, Aéroport de Paris n'est plus un établissement public industriel et commercial sous tutelle de l'État. C'est une entreprise publique depuis 2005, et donc qui a déjà fait l'objet d'une émancipation. Donc, voilà, imaginez qu'on va passer d'une étatisation à une privatisation est un peu caricatural, à mon avis.
Non, mais c'est pas la réponse de David Kayla, ouais.
Non, mais c'est pas du tout ce que je disais. Aujourd'hui, c'est l'État
ce que j'ai entendu.
Non, mais aujourd'hui, c'est l'État qui
est majeur.
Donc, lorsqu'il y a un conflit, parce que bien sûr, moi, je n'ai jamais dit que les services de douane fonctionnaient parfaitement, mais enfin, ils ne vont pas mieux fonctionner si on délègue la gestion de tous les investissements à un partenaire privé qui n'en a absolument rien à faire. Aujourd'hui, bien sûr que l'aéroport de Paris a une part minoritaire de capital privé, mais enfin, l'État est majoritaire. L'État
a donc 0,6%.
Ben oui, mais ça suffit pour nommer le président et pour le révoquer si jamais il ne fait pas bien son travail. Ça va être totalement différent. Et notamment, alors moi, je pense aussi à l'aéroport de Toulouse, qui, alors là aussi, vous
c'est
avez
un précédent dit, qui est souvent cité, effectivement.
Oui, il n'a pas été. Alors, les modalités sont différentes. Ici, c'est une concession de 70 ans, d'ailleurs, extrêmement longue, alors que Toulouse, on a vendu l'ensemble. D'ailleurs, on pourrait remarquer que à Toulouse, le bloc, on va dire, public et reste majoritaire. Cela dit, comme l'actionnaire privé est beaucoup plus important que les autres, c'est quelque part lui qui décide. Et ce qui s'est passé, c'est que l'actionnaire privé, eh bien, il a augmenté les dividendes, il n'a absolument rien investi, c'est un consortium chinois. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il cherche maintenant à revendre ses parts et donc à faire une plus-value. Donc le problème, il est quand même que lorsqu'il s'agit de la sécurité des personnes, eh bien, il faut une autorité décisionnaire, et que cette autorité décisionnaire soit pas en conflit d'intérêts. Et là, aujourd'hui, l'autorité décisionnaire, de toute façon, qu'on le veuille ou non, c'est l'État. L'État, alors évidemment, je suis d'accord, c'est pas une entité homogène, mais aujourd'hui, on peut quand même considérer que le ministère de l'Intérieur et dans le Conseil des ministres, on peut décider que s'il y a vraiment des vrais problèmes, eh bien, on peut toujours virer le directeur des aéroports de Paris, ce qui ne sera plus possible lorsque ce sera... il sera nommé par des capitaux privés.
Alors, Jacques-Zapier, la question qui est au cœur de notre sujet, c'est pourquoi cette privatisation? On a pu évoquer par-ci, par-là, l'idée de satisfaire peut-être Vinci après l'abandon de Notre-Dame-des-Landes. Alors, il y a quelques idées parfois à la limite du complotisme, mais en tout cas, ça alimente ces accusations de collusion de l'exécutif avec les grands groupes, cette histoire.
Oui, absolument. Et il faut dire que... toutes ces choses qu'on peut lire ou qu'on peut voir, en particulier sur Internet, il serait d'une certaine manière assez facile au gouvernement d'y répondre s'il établissait une véritable transparence dans les procédures qu'il veut mettre en place. Or, il faut bien constater qu'il n'y a pas de volonté de la part du gouvernement d'établir une réelle transparence. Et donc ça, c'est déjà quelque chose qui nous permet de nous inquiéter. Si vous voulez, j'avoue que j'ai vécu, alors bien entendu, dans un contexte complètement différent, ça n'a rien à voir avec la France, mais j'ai quand même vécu d'assez près le processus des grandes privatisations en Russie en 1995, 1996 et 1997, et je suis assez étonné de voir ce genre de méthode réapparaître aujourd'hui en France. On sait que...
c'est une accusation lourde, là. Oui,
tout à fait. Nombre de ces privatisations, de ces privatisations en Russie ont donné lieu à des opérations qui étaient des opérations tout simplement frauduleuses. On sait aussi que nombre des experts qui avaient conseillé le gouvernement se sont retrouvés dans, les mains prises dans le pot de confiture de ce point de vue-là. Il y a, si vous voulez, un livre tout à fait remarquable qui a été écrit fin 1999 par une anthropologue, Madame Janine Wedel, qui s'appelle Collusion and Collision, et qui décrit très précisément ce qui s'est passé. Donc, je pense que derrière cette question d'aéroport de Paris, il y a effectivement un problème de méthode. Et ce problème de méthode, il devient encore plus évident quand on regarde les chiffres, quand on regarde à quoi va servir cet argent. Parce que là aussi, on se dit, mais à quoi ça sert de sacrifier à peu près 700 à 800 millions, bon, ça dépend des années, il y a des années où ça rapporte plus, des années où ça rapporte moins, 700 à 800 millions de dividendes pour n'obtenir que 250 millions, si on veut, à travers un placement. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas.
Dans un premier temps, l'État attend 15 milliards, dont effectivement, comme vous avez dit, 5 serviront à rembourser la dette. Il faut rappeler que la dette, c'est 2300 milliards. C'est vrai que c'est un petit peu difficile de voir la différence que ça ferait sur ces 2300 milliards. Éric Vérec, votre avis sur ce manque de transparence que dénonce Jacques Sapir.
Mais moi, je partage cet avis, puisque comme Jacques le souligne, il y a en effet un calcul compliqué à comprendre sur la rentabilité de l'opération et notamment sur la valorisation de l'entreprise qui s'apprête à être vendue. Or, ce qui nous gêne, c'est qu'en effet, dans ces calculs, il y a quelqu'un qui est à l'ouvrage, qui s'appelle Bernard Mourad, qui est président de Bank of America, succursale française, et c'est lui qui est chargé de conseiller le gouvernement sur cette opération. Or, le problème de Bernard Mourad, c'est qu'on le connaît. Il a fait partie de l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron. Il y a un très beau portrait de lui en novembre 2018 qui a été fait par Vanity Fair, qui souligne notamment le rôle qu'il a eu dans la levée de fonds à Londres pour financer la campagne d'Emmanuel Macron, sur laquelle règne une très grande opacité, c'est-à-dire qu'officiellement, on a du mal à comprendre la distribution autour de la moyenne des montants versés durant cette campagne à Emmanuel Macron, pour parler pudiquement. Et donc, dans cette affaire, on est très gêné par le côté que souligne, à mon avis, assez justement Jacques, de ce que j'appelle, ce que j'appelle comme beaucoup d'autres, le chronicapitalisme, c'est-à-dire le capitalisme de connivence, où on s'aperçoit que les fortunes privées se nourrissent de contrats passés avec l'État ou consentis par l'État dans des conditions relativement opaques, comme ça a pu être le cas dans la Russie post-soviétique. Et c'est vrai qu'on est gêné aujourd'hui parce qu'on aimerait bien que le gouvernement donne toutes les garanties nécessaires sur la transparence de cette opération, sur les conditions dans lesquelles elle va se réaliser. Et ce manque de transparence, il n'est pas fait aujourd'hui par le gouvernement. Et on voit bien que ça devient une limite de méthode, c'est-à-dire que ça nourrit tous les fantasmes et ça nourrit toutes les suspicions qui sont extrêmement malsaines dans ces temps de contestation des institutions, parce qu'on se dit, et je crois que le sujet de la privatisation d'ADP, qui est à la base très technique, nourrit beaucoup de, on l'a vu sur le nombre de signatures de cette pétition qui a été lancée par Kaila et par les économistes atterrés. Je pense qu'il y a beaucoup de gilets jaunes contre la privatisation d'ADP. Ça signifie quand même qu'aujourd'hui, il y a un rejet dans l'opinion publique de cette façon de gouverner, ce que j'ai appelé, je crois, à une époque, le mal gouverneau français, c'est-à-dire notre déficit de bonne gouvernance ou de gouvernance démocratique. démocratique.
Et alors oui, David Carilla, justement, ces 15 milliards attendus, on a dit que 5 milliards serviraient à rembourser la dette. Les 10 milliards restants, Bruno Le Maire veut les investir dans un fonds pour l'innovation de rupture, c'est-à-dire ce qu'on appelle à notre époque sobrement la disruption. En gros, l'idée, c'est de privilégier globalement les start-up innovantes par rapport, entre guillemets, aux valeurs sûres. Est-ce que ce serait ça?
Alors, c'est ce qui est dit. Bon, pour l'instant, on ne connaît pas trop exactement la manière dont le système va être fait, mais d'après ce que j'ai compris, il s'agit donc de dégager 250 millions qui seront confiés à une agence sous l'autorité directe du Premier ministre et qui sera chargée de financer à la fois les start-up innovantes et puis aussi des infrastructures nécessaires. Et alors, moi, ce que je trouve intéressant ici, enfin plutôt pas très pertinent, c'est pourquoi adosser, pourquoi créer une nouvelle agence? Pourquoi l'adosser au Premier ministre alors qu'on a déjà la BPI, BPI France, la Banque publique d'investissement, qui est chargée justement de financer les PME. Et donc, on a un outil avec des personnes qui sont qualifiées. On pourrait simplement augmenter son budget de 250 millions d'euros par an et puis créer une cellule dedans pour financer les innovations de rupture, mais pas forcément le faire par rapport à... le cabinet du Premier ministre n'a pas de compétences spécifiques pour financer l'innovation. Donc ça, je trouve ça aberrant comme justification pour ces privatisations.
Russe Europe Express,
Jacques Sapir,
Clément Olivier.
Et justement, ces start-up et ces PME qui sont au cœur de ce texte, on nous dit que les PME françaises ont du mal à grandir, on parle de syndrome Peter Pan qui ne voudrait pas grandir. Est-ce que ça nous permet de parler un petit peu du reste de ce qu'il y a dans ce texte de la loi Pacte? Est-ce que les PME françaises ont vraiment besoin de grandir, David Caïla?
Je pense que toute entreprise souhaite sans doute grandir. Mais là, c'est intéressant de voir, on prend le modèle allemand, effectivement, qui a une structure d'entreprise différente, mais on oublie de voir que le problème en France, c'est deux choses. D'abord, la part de l'industrie globalement qui est faible. Donc, on a des PME qui ne sont pas forcément des PME industrielles. Et puis, on a aussi un problème d'organisation de la chaîne productive avec des donneurs extrêmement puissants et qui, du coup, écrasent un peu dans les relations professionnelles le tissu de PME. Et on a un autre modèle en Allemagne. Alors, je ne sais pas si la loi Pacte peut changer cela. Moi j'ai des doutes, parce qu'il faudrait réorganiser la manière dont le pouvoir s'organise dans les filières industrielles. Et ça demande... c'est agir là-dessus, ça demanderait beaucoup plus. Ça demanderait un véritable investissement de l'État pour que les PME puissent trouver des financements, pour aussi la réindustrialisation. Parce que c'est pas les PME en général qu'il faut aider, c'est surtout les PME industrielles.
Il y a une idée, Éric Verhaeghe, dans ce texte qui est de lutter contre les difficultés bureaucratiques. On parle d'obstacles à la croissance des entreprises, c'est le mot qui est employé, notamment ces fameux seuils d'effectifs que les entreprises peinent à franchir, parce que quand on franchit notamment le fameux seuil des 50 salariés, ça entraîne tout un tas de responsabilités administratives. On nous dit que c'est pour ça que les entreprises françaises, ou en tout cas les PME françaises, n'arrivent pas à croître. Votre avis, vous qui justement êtes chef d'entreprise?
Déjà pas que, mais c'est vrai que le gouvernement d'ailleurs continue cette vieille tradition qui consiste à imposer des règles, à mon avis quand même relativement contestables, à partir du seuil de 50 salariés. C'est le cas de l'index égalité hommes-femmes qui est sorti par décret en janvier 2019 et qui...
C'est difficilement comparable, oui, mais...
Ah ben si, parce que dans les deux ans, toute PME va devoir passer un temps infini à calculer l'égalité des chances dans la promotion entre hommes et femmes et va devoir l'afficher sur son site internet.
Mais je comptais sur vous pour défendre ce texte, justement, il compte et réduire le nombre de seuils d'effectifs, justement,
sur la loi
qui sont jugés trop nombreux.
Non, parce qu'en effet, la question des seuils, elle est emblématique du fait qu'en France... On part du principe que plus une entreprise grossit, plus ça doit être compliqué pour elle, etc. Je pense que la question des seuils n'est qu'une des questions de la complexité administrative. En réalité, la complexité administrative, elle est d'abord dans l'imposition de règles extrêmement touffues sur les relations collectives et individuelles de travail au sein de l'entreprise. C'est-à-dire que si vous voulez ne pas être accusé quand vous faites une promotion au sein de votre entreprise de discrimination sur le sexe, la religion, etc., vous devez multiplier des procédures ressources humaines qui tuent toute forme d'envie d'animer l'équipe. Si vous voulez. Donc la difficulté, elle est plutôt là, et la question des seuils, pour moi, elle a toujours été relativement à la fois emblématique et marginale, donc c'est bien qu'on y touche. En même temps, il ne faut pas imaginer que ça va être la révolution, et il ne faut pas imaginer que quelqu'un qui a son carnet de commandes plein dit « mais moi, je reste à moins de 50 et je refuse des commandes ». Ce qu'il fait aujourd'hui, ce que nous faisons tous, c'est de créer plusieurs entreprises qui permettent de contourner les seuils. Et ça va continuer. Le drame, en réalité, en France, c'est que lorsqu'une entreprise veut se développer, lorsqu'une PME veut se développer, le modèle français, c'est qu'elle est rachetée par une grande entreprise. Et alors qu'en Allemagne, elle est préservée, et notamment parce que c'est généralement une entreprise familiale, à capital familial, et que donc une grande entreprise a du mal à la racheter. En France, on a du mal à avoir des capitaux familiaux, compte tenu notamment des fiscalités qui pèsent sur le capital. Et donc on fait très souvent appel soit à l'endettement, soit à la levée de fonds, et ça vous ouvre la possibilité d'être racheté par une grande entreprise. C'est ça le syndrome de Peter Pan en France. On ajoutera que la tentation, quand on est entrepreneur français et que les affaires marchent, c'est de créer une filiale à l'étranger et de faire son développement à l'étranger. Parce que qu'est-ce que c'est usant quand on est employeur de s'entendre dire en longueur de journée qu'on est un méchant discriminateur. Alors j'entends les universitaires, et je le dis amicalement, beaucoup d'économistes atterrés, taxer les employeurs de tous les défauts du monde. Quand on entend ça, on se dit, ben, je prends des risques, je vais plutôt aller les prendre là où on va me dire merci de les prendre, plutôt qu'en France, on m'explique que c'est jamais assez bien.
On n'a jamais dit ça.
David Kayla, hein. Je l'entends souvent.
Non, mais vous ne trouverez pas un seul texte des économistes atterrés qui critique les patrons et les entrepreneurs, c'est faux.
Qui préconise l'augmentation des règles, je peux vous en trouver beaucoup.
On laissera les auditeurs chercher par eux-mêmes. Jacques Sapir, votre avis sur tout ce qui vient d'être dit. Le modèle allemand des PME, notamment.
Alors, je crois que le modèle allemand, il s'inscrit dans l'histoire longue. Parce qu'il faut d'abord rappeler que lors du développement industriel de l'Allemagne, un développement industriel qui s'est fait en retard par rapport au développement industriel français. Ça, il faut jamais l'oublier. Dans ce développement industriel, on a eu deux choses. On a eu la création de très grandes entreprises. Les premières, je dirais, entreprises géantes, elles sont allemandes. Absolument, ce sont les concerns, Krupp, Thyssen, Siemens en particulier. Bon. Et puis, à côté de cela, et c'est aussi une action de la gouvernance locale, c'est-à-dire des villes ou des régions. On a eu une action pour faire vivre et faire se développer des entreprises de taille moyenne. Alors, ce qui est vrai en France, et ça, il faut évidemment bien s'y interroger, c'est, je dirais, une vision de la part des grandes entreprises. Aujourd'hui, on dirait des entreprises du CAC 40, mais quand le CAC 40 n'existait pas, quand il n'y avait pas un tel poids de la bourse, c'était les entreprises de ce qu'on appelait autrefois le comité des forges, qui n'est pas l'ancêtre du MEDEF, mais qui est l'un de ses prédécesseurs. Bien. Le fait que ces entreprises percevaient les entreprises naissantes comme des concurrents futurs qu'il fallait soit étrangler, soit absorber. Et vous avez un exemple qui est quand même assez archétypal, ce sont les relations, par exemple, entre Citroën et Renault. Citroën, qui est un ingénieur brillant, qui avait fait beaucoup d'argent pendant la guerre comme fabricant de munitions, décide de se lancer dans l'automobile, avec des méthodes assez novatrices, et immédiatement il se heurte à la réticence puis à l'hostilité farouche de Renault. Et si Citroën n'avait pas été racheté par une grande entreprise Michelin, Citroën aurait fait faillite en 1935-1936. Donc il y a là, je pense, quelque chose dans la mentalité des grandes entreprises. C'est pas tellement dans les règlements pris par l'État, mais c'est dans la mentalité des grandes entreprises qui effectivement gêne. Et c'est cette mentalité qu'il apparaît aujourd'hui extrêmement difficile de faire bouger.
Vous nous dites que ça ne sert à rien de se comparer aux Allemands? Pour faire
je
simple,
dis pas que ça,
pardonnez-moi.
Je dis que il est toujours intéressant de faire une comparaison. y compris de comparer des choses qui sont différentes, si vous voulez. Et je suis un grand adepte, d'un point de vue scientifique, de la démarche comparatiste. Mmh. Mais je dis que vouloir reproduire, ce qui n'est pas la même chose que comparer, vouloir reproduire dans un pays les institutions et les pratiques d'un autre pays, c'est en réalité faire l'hypothèse qu'on est dans la même situation, c'est qu'on a la même histoire. Donc c'est ça qui me gêne, et il faudrait mieux se demander quels sont les points de force dans l'histoire industrielle française sur lesquels on peut s'appuyer pour re-industrialiser, redynamiser le tissu industriel français. Donc ça, je pense que c'est ça la vraie question qui aurait dû être posée dans la loi Pacte.
Voilà, le message est passé à Bruno Le Maire s'il nous écoute. Alors, vous parlez de reproduire des institutions. Je vous laisse encore la parole un instant, Jacques Sapir. Vous avez parlé de la bourse. Il y a un des aspects de cette loi Pacte, c'est de faciliter l'accès des PME à la finance pour se financer. Sauf que, on sait quand même qu'une écrasante majorité de l'activité de ces marchés financiers ne consiste pas à financer les entreprises avec des émissions de nouvelles actions, mais à spéculer en achetant et en vendant des actions déjà émises. Est-ce que ça ne peut pas entraîner des risques justement pour ces PME ?
Oui, et si vous voulez, cette idée, c'est typique de l'idée de la transposition. Un certain nombre d'économistes et un certain nombre de décideurs politiques ont regardé les États-Unis. Et ils se disent, mais c'est génial, les entreprises américaines tirent l'essentiel de leurs moyens financiers des marchés financiers. Donc, et puis justement, il y a des marchés financiers qui sont spécialement adaptés pour servir les entreprises innovantes. Bon, donc c'est là, on va créer la même chose. Oui, mais c'est oublier que cela s'appuie à la fois sur des traditions, ça s'appuie sur des institutions qui sont assez différentes, et que ce n'est pas parce que l'on va, d'une certaine manière, mettre en place des institutions similaires à celles des États-Unis en France, si tant est qu'on y arrive, et je ne pense pas qu'on pourrait y arriver très facilement, que ce phénomène se produirait. Je pense qu'il vaut beaucoup mieux se poser la véritable question, qui est celle, comment une entreprise naissante ou émergente peut-elle trouver le capital nécessaire à son développement ? Et là, il faut rappeler qu'il y avait, jusqu'aux années 80, toute une série d'institutions typiquement françaises qui apportaient justement à ces entreprises, d'une certaine manière, leur capital naissant. Par ailleurs, il y a aussi des choses qu'il faudrait peut-être changer dans le réinvestissement dans l'entreprise d'une partie des profits. Parce qu'il faut savoir que dans une petite entreprise, la question justement de l'autofinancement est toujours quelque chose d'assez important. Donc voilà, je pense que là encore, la loi Pacte souffre du fait qu'elle conçoit en réalité un modèle de développement, je dirais, en imitation à ce qui se fait dans d'autres pays, au lieu de se poser la question, de dire, voilà, il y a un problème de financement, il y a un problème de développement des petites entreprises, il est réel, tout le monde est d'accord là-dessus. Quelles sont les méthodes qui seraient, cette fois-ci, beaucoup plus cohérentes avec l'histoire économique de la France, que l'on pourrait trouver pour développer ces entreprises.
Éric Verhaegh, est-ce que vous avez envie de coter votre entreprise en bourse ?
C'est une question que mes salariés me... Quand mes salariés voient certains montants de levée de fonds, ils ont des étoiles dans les yeux en disant « Pourquoi on ne fait pas la même chose ?» Alors, moi je suis flamand, donc chez nous, historiquement, ça fait 2500 ans qu'on procède par autofinancement et qu'on n'aime pas utiliser l'argent des autres. C'est vraiment des questions de refuge culturel. Ce qui me gêne, moi, je préférerais plutôt qu'on me donne accès à des fonds plus facilement que je ne demanderais pas. Ce que je préférerais, c'est qu'on change les règles du crédit impôt recherche, qui est aujourd'hui, d'abord, si vous voulez avoir le crédit impôt recherche, qui est cette facilité fiscale, ce crédit fiscal qui est versé aux entreprises innovantes, ce crédit impôt recherche, pour l'avoir, il faut faire appel à une société de consultants, tellement c'est compliqué de le demander. Et c'est un parcours, si vous voulez, extrêmement risqué. La Légion étrangère à côté, c'est rien quand on s'initie à la Légion étrangère. Pourquoi ? Parce que on vous dit, si vous êtes une entreprise, ce qui est le cas de mon entreprise, qui est une Egaltech, et que vous ne demandez pas le crédit pour recherche, vous allez avoir un contrôle fiscal parce que ça va paraître louche qu'une entreprise ne demande pas les subventions auxquelles elle a droit. Et quand vous faites le dossier, qui fait énormément de pages, vous ne pouvez pas le faire vous-même, vous payez des gens pour le faire, on vous dit « Ah, mais si vous demandez le crédit impôt recherche, vous allez avoir un contrôle fiscal parce que l'État va s'assurer qu'il n'y a pas fraude. » Et donc, si vous voulez, vous êtes pris dans une nasse où on vous explique que tu as voulu innover, mon gars, tu aurais fait comme les copains, tu passerais inaperçu. Et là, tu vas avoir un contrôle fiscal et on va vérifier sous à sous si tu as bien fait les calculs, les bidules, les machins. J'ai même, puisqu'il se trouve que nous, on a le vice d'avoir une société de presse en même temps, eu un courrier entre les mains du ministère de la Culture qui a expliqué un jour qu'ils allaient me dénoncer au ministère des Finances. Et quand vous voyez que la machine d'État se met en branle face à des gens qui innovent en autofinancement, moi je suis propriétaire de mon capital, je l'ai gagné à la sueur de mon front. Quand vous dites, ah bon, on va te sanctionner alors que tu irais demander de l'argent à des capitalistes américains, à des grandes entreprises, là, en gros, ce serait tapis rouge. Et donc forcément, le message qui est envoyé, c'est n'innovez pas en France, partez à l'étranger les amis, ou alors vendez votre capital aux étrangers, mais surtout n'ayez pas la mauvaise idée de prendre des initiatives. Et ça, je pense qu'en effet on changerait les règles du jeu et l'État se montrerait moins suspicieux vis-à-vis des entrepreneurs qui prennent des risques à titre personnel. Je pense qu'on se porterait bien mieux.
David Kaila, votre avis sur ces difficultés de financement en France ?
J'ai envie pour faire court, de rejoindre un peu ce qu'a dit Jacques Sapir, c'est-à-dire nos gouvernants ont du mal à comprendre que l'économie, c'est une science sociale. C'est-à-dire que concrètement, on ne fait pas de l'économie de manière abstraite, comme avec des tableurs et en transposant comme ça, en cherchant à transposer des modalités de fonctionnement d'autres pays en France. Moi, je suis un économiste institutionnaliste. Hein, je me suis beaucoup intéressé sur le lien entre l'économie et les sciences sociales dans un livre que j'ai récemment écrit qui s'appelle L'économie du réel. Et je pense que justement, cette capacité ou cette non-capacité des gouvernements à prendre en compte le réel, c'est-à-dire la réalité des institutions françaises et les forces et les faiblesses de la France pour mettre en œuvre des politiques de réforme, c'est ça le vrai drame. C'est-à-dire qu'on va encore refaire une réforme qui va être extrêmement complexe. Qui en réalité n'aura pas de prise sur la réalité du fonctionnement des entreprises. Hein, et j'entends aussi très bien ce qu'on vient de dire sur la difficulté que peuvent avoir les PME dans le cadre actuel pour se financer, et notamment le désintérêt qu'elles peuvent avoir pour se financer par les marchés financiers. Donc on va leur proposer des solutions qui n'en sont pas, au lieu de réfléchir sur ce que c'est réellement que l'économie française aujourd'hui. Et l'économie française aujourd'hui, ce n'est pas juste des tableurs, c'est des gens, c'est des institutions, c'est une histoire industrielle qui est tout à fait spécifique.
Et alors à propos des gens, justement il y a un dernier point pour un petit peu clore cette émission, un dernier point dont je voulais qu'on parle, c'est que ce texte il s'inspire alors d'assez loin, mais du travail d'un groupe de chercheurs de l'école des mines et du collège des Bernardins, donc avec une certaine inspiration d'éthique catholique par opposition à l'éthique, alors vous allez peut-être me corriger, par opposition éventuellement à une éthique qui serait protestante comme celle décrite par Max Weber, bref, en tout cas un groupe de chercheurs qui plaident pour que l'entreprise soit légalement redéfinie comme n'ayant pas pour but essentiel le profit. On salue notamment le juriste Stéphane Vernac qui n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui, qui fait partie de ce groupe. On parle donc notamment d'entreprise à mission, on parle de création de commun, de raison d'être de l'entreprise. Et justement, cette loi Pacte, elle introduit une idée de responsabilité sociale et environnementale dans l'entreprise. Il me semble que ça ne va certainement pas aussi loin que ce que préconisent ces chercheurs, mais est-ce que, selon vous, David Kaila, c'est un pas en avant dans un sens qui serait bon, ou est-ce que ce sont des vœux pieux ?
Moi, je pense surtout que c'est très dangereux, que le service public doit être géré par le service public, justement. Et quand on commence à mélanger les genres, c'est-à-dire à demander aux entreprises de faire non pas du profit et de la production, mais de s'intéresser à toutes sortes de problématiques sociales ou sociétales, je pense qu'on se trompe. Je pense que c'est l'État, c'est via la démocratie, et non pas via le marché et l'entreprise, qu'on doit répondre à ces besoins sociaux. Ces besoins sociaux sont très importants, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, lorsqu'on démantèle l'État, on est réduit à vouloir demander aux entreprises de bien faire ce que l'État ne veut plus faire.
Vous avez peur qu'on demande aux entreprises d'assurer des missions dont l'État veut se débarrasser ?
C'est pas leur rôle, hein, c'est tout. Je veux dire, les entrepreneurs, ils ont déjà beaucoup de travail à faire ce qu'ils font, et ils le font parfois très bien, il n'y a aucun souci, mais il ne faut pas mélanger les genres. Je veux dire, c'est à l'État d'organiser la protection de l'environnement, c'est pas aux entreprises, c'est à l'État de faire en sorte que les salariés vivent le mieux possible leur travail via aussi des systèmes d'inspection qui sont nécessaires. On ne peut pas juste se reposer sur les entreprises en leur confiant des missions de service public. Je pense que c'est un mélange des genres qui est dangereux.
Jacques Sapir, pour qu'une entreprise elle ait une responsabilité sociale et écologique, ça implique des mesures de contraintes, alors que ce n'est pas exactement l'idée ici.
Alors, je pense qu'il faut, il faut séparer deux choses. Il est clair que les entreprises doivent respecter la loi. Et cette loi, elle détermine toute une série d'obligations, que ce soit en matière d'organisation du travail, en matière de protection des salariés ou en matière environnementale. Et donc là, oui, il est tout à fait logique qu'il y ait des contrôles faits par l'État. Mais ce n'est pas la question qui était posée, en fait, par les gens qui venaient de l'École des Mines ou des Bernardins. Mmh. Ce qu'ils disaient, et ce qui pose un problème qui est intéressant, mais un problème qui est extrêmement difficile de traiter. C'est la question suivante. C'est consiste à dire, oui, bien sûr, une entreprise a pour fonction de faire du profit, de gagner de l'argent. Une entreprise qui ne gagnerait pas de l'argent ou qui perdrait de l'argent, ben, elle disparaît. Bon, voilà, il n'y a pas de problème. Mais il faut aussi comprendre que l'entreprise, de manière non intentionnelle, crée d'autres choses. Elle crée d'autres choses, que ce soit pour les gens qui travaillent dedans, un collectif, ou alors elle peut avoir aussi de manière non intentionnelle des effets sur le territoire sur lequel elle opère. Et donc, il faudrait que cela soit pris en charge, ou disons soit intégré dans la décision de l'entreprise. Bon, c'est très beau de le dire comme cela. Comment le faire? Et c'est là où vient toute la difficulté. Je pense que effectivement, il devrait y avoir des formes politiques reliant les entreprises sur un territoire aux autorités de ce territoire. Par exemple, une entreprise peut émettre des rejets polluants, bien, de fait de son activité. Alors, est-ce qu'on se contente de dire, ben voilà, vous n'avez pas le droit, ou si vous le faites, vous payez une amende, ou est-ce qu'on dit soit, est-ce qu'on peut trouver d'autres processus de production qui seraient moins polluants? Pour ce faire, vous avez peut-être besoin d'investir. Est-ce qu'il est possible qu'une partie de cet investissement soit pris en charge par le territoire? Parce que c'est le territoire qui va souffrir justement de vos rejets polluants. C'est plutôt vers ça qu'il faut aller, c'est-à-dire vers l'idée d'un dialogue entre les entreprises et les autorités territoriales et sociale.
Mmh. Eric Vérec, je vous laisse le mot de la fin.
C'est gentil. Moi, je vais créer une entreprise à mission. Mmh. Alors, ce qui me gêne, c'est pas le fond. On pourra en discuter des heures. C'est la forme. C'est-à-dire que tout a été annoncé durant les débats parlementaires, notamment et les pré-débats, sous la forme de « mais non, c'est rien, c'est pas grave, ça n'engage à rien, il n'y aura pas de conséquences, c'est juste un gadget, etc. » Et je vois dans la presse avant-hier que la CFDT propose déjà une obligation de négocier le sens ou les missions de l'entreprise dans chaque entreprise. Donc on voit bien ce qui me gêne, c'est qu'on a mis le doigt dans un processus qui, on le sait, se terminera par des facilités fiscales pour les entreprises qui ont des missions autres que faire du profit. Et ce serait tellement plus simple de le dire et de dévoiler ses intentions dès maintenant. Au passage, je signale que cette forme d'entreprise à mission, ça existe chez Danone. Danone a créé une entreprise à mission sanitaire aux États-Unis, et qu'en réalité, c'est beaucoup plus Muriel Pénicaud, ex-DRH de Danone, qui a apporté cette idée que le groupe des Bernardins, parce qu'elle l'a pratiqué dans son ancienne entreprise, et que je pense qu'en effet, le Danone a beaucoup d'influence aujourd'hui sur les décisions politiques en France. C'est d'ailleurs l'entreprise privée la mieux cotée en égalité homme-femme.
On vous laissera responsable de vos propos. Merci Eric Vérec et David Kaila, merci beaucoup à vous deux. Merci bien sûr aussi à vous Jacques Sapir et à vous tous les auditeurs de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission en vidéo ainsi que toutes les précédentes sur la page YouTube évidemment de Spoutnik Français, sur notre site. Un numéro qui était préparé avec Jean-Baptiste Mendès et assemblé à la technique par Pipo Pichi et Thibaut Picard. On vous donne tous rendez-vous au prochain épisode de Russe Europe Express avec Jacques Sapir. D'ici là, vous connaissez la formule, faites pas vos Jacques. Salut à tous.
This is not a method. This is a provocation. Let them do. No.